quelques mots d'introduction pour cette discussion. Pas mal d'entre nous ici sont impliqués dans la discussion, le débat parfois orageux qui a eu lieu sur les missions dites PSI à MSF. Ce sont des missions qui ont commencé il y a maintenant près de 20 ans, au moment du tremblement de terre en Arménie, et qui ont toutes été développées dans des contextes où un événement particulièrement violent avait des conséquences, on verra si elles sont supposées ou réelles, mais des conséquences pathogènes. Et c'est cette pathologie, donc à proprement parler post-traumatique, qui a constitué le gros de ces missions dites PSI. Pas exclusivement, naturellement, mais dans une mesure quand même très très large. Au bout de quelques années, pour des raisons enfin, qui n'ont pas d'intérêt ici, qui ne sont pas spécialement tordues, par ailleurs, il y a une remise en question de ces programmes. Il y a un travail qui est fait au sein du département médical sur cette question, travail qui n'a pas encore abouti. Mais on est quelques-uns à s'être dit qu'après la publication du livre de Didier Fassin et Richard Eichmann intitulé « L'emprise du traumatisme », après également avoir publié dans la sélection du Crash une partie d'un article qui s'appelle « Du traumatisme à la victime » écrit par Richard Eichmann et qui, lui, traite vraiment très directement de cette question-là. On s'est dit, avec notamment Fabrice, qu'il serait vraiment intéressant d'avoir l'auteur lui-même, Richard Eichmann, pour venir nous exposer une réflexion qui est à la fois historique, clinique, sociologique, mais enfin qui ne se déclinera pas dans tous ces aspects ce soir parce qu'on n'a pas le temps, mais enfin, sachez que c'est cette base de réflexion-là qui est la sienne. Donc développer une réflexion sur ce thème-là, sachant que, par exemple, dans le contexte de la mission France d'MSF, il prend une nouvelle actualité. Alors Richard Eichmann est lui, enfin, particulièrement bien placé pour nous éclairer. Il est psychiatre, il est anthropologue, il est praticien et chercheur à la fois, et en plus, un point d'intérêt particulier pour ce qui concerne notre pratique, outre le fait qu'il peut avoir un point de vue décalé en parlant, par exemple, des usages de la victimologie, de la psychiatrie victimaire, enfin, bref, enfin, des syndromes mobilisés dans le post-trauma en France, ce qui est aussi éclairant pour nous, le point de vue décalé étant ici, pour nous, le point de vue français. Il est également un praticien qui travaille avec des gens qui sont nos clients habituel, puisqu'il a beaucoup travaillé, je crois que tu continues de travailler encore, avec des Cambodgiens, de façon plus spécifique. Alors voilà, pour toutes ces raisons, donc, on a invité Richard Eichmann, à qui maintenant je passe la parole. Je propose juste, pour que les règles soient claires, qu'on écoute Richard pendant une bonne demi-heure, 30-40 minutes, enfin bon.
Vous pouvez même m'interrompre avant.
Voilà. Et puis ensuite, on discute. Salut Xavier.
Ben, d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Moi, ça me fait très plaisir d'être avec vous. Pas seulement parce que c'est vrai qu'il y a une partie dans le livre qui est consacrée à l'action humanitaire sur le traumatisme. Donc, c'est toujours très intéressant de rencontrer des gens dont on a pu, à un moment ou un autre, parler dans le livre. Mais aussi parce que je trouve que le travail que vous menez, la réflexion que vous menez, eh ben, est assez proche des questions que l'on peut se poser quand on est à la fois clinicien et chercheur, comme c'est mon cas. Alors, justement, pour essayer de tenir le délai et la gageure qui m'est un peu posée, essayer de vous présenter ce travail qui est un travail long, ancien. Hein. Moi, ça fait 20 ans que je travaille sur la question du traumatisme. L'enquête qu'on a menée avec Didier Fassin, on l'a menée pendant 5 ou 6 ans et on a mis un peu plus de 2 ans pour l'écrire. Donc, vous voyez, c'est quand même un truc assez long et je vais vous épargner toute la longueur, en tous les cas, et toute la difficulté que ça a pu être pour essayer de vous donner quelque chose de concis. Et la meilleure façon, me semble-t-il, de vous faire partager un petit peu cette réflexion qu'on a menée avec Didier Fensin, que j'avais d'abord mené par ailleurs sur la question du traumatisme. C'est peut-être de vous expliquer pourquoi j'en suis venu là, pourquoi je me suis posé cette question en étant d'abord clinicien, même si je faisais de l'anthropologie, et en travaillant sur des populations un peu exotiques, les Cambodgiens de France. Et comme vous savez, il s'est passé un certain nombre de choses au Cambodge qui font que la plupart des gens qui sont rescapés ont connu des événements que l'on pourrait décrire comme étant hors du commun et que l'on a vite fait de dire traumatisés. Alors je dis vite fait de dire traumatisés parce que du point de vue clinique, et dans ce livre on en parle très peu finalement de la question clinique, mais j'en dirai quelques mots là, c'est difficile de savoir qui est traumatisé ou qui ne l'est pas, ne serait-ce que parce que ça dépend du référentiel auquel on adhère, hein, selon le type de classification, selon le type de pensée psychiatrique ou psychopathologique, bah, telle personne est traumatisée ou ne l'est pas. Donc je ne vais pas trop rentrer dans ce détail-là, je vais essayer de vous faire partager ce moment de surprise finalement que j'ai eu dans cette clinique avec des réfugiés d'Asie du Sud-Est, où évidemment, ils me racontaient des choses absolument épouvantables dès le début. Et d'ailleurs, la première fois que j'ai commencé, j'ai été plus malade qu'eux en les entendant, parce que c'était vraiment des choses épouvantables. Et je me suis rendu compte que finalement, comme ils me le disaient régulièrement, c'était pas nécessairement cela qui les avait traumatisés. Encore que c'est pas nécessairement cela, je crois qu'il faut être précis sur les termes. Ce qu'ils me disaient, c'est qu'ils avaient enduré des choses absolument épouvantables, mais qu'on sait qu'on les endure pendant des temps absolument horribles. Je me souviens d'une remarque d'un patient que sans doute j'étais un petit peu trop en train de titiller parce qu'il avait perdu ses parents, perdu sa femme, perdu un peu tout le monde et qu'il avait vécu des choses absolument épouvantables. Et à un moment, il s'arrête et il me dit, vous savez, docteur, quand on voit des cadavres tous les jours, tout le temps, pendant 4 ans, eh bien, on s'y habitue. Et cette phrase a vraiment résonné pour moi comme quelque chose qui bouleversait complètement mes catégories. Parce que qu'est-ce que j'avais lu jusqu'à présent? Vous savez, en France, il y avait très peu de gens qui s'intéressaient à la question du traumatisme. Ce n'était pas encore à la mode dans les années 85, 80, 90. Et les seuls qui avaient travaillé sur les populations d'Asie du Sud-Est, et d'ailleurs c'est toujours le cas, c'était les Américains. Et notamment ceux qui utilisaient le PTSD avec des grilles tout à fait simples, pourrait-on dire, de qu'est-ce qui est un événement traumatique, l'échelle des choses qui étaient traumatisantes, et le nombre de traumatismes qu'avait vécu quelqu'un. Et là, si on appliquait leur grille, on se rendait compte qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas, non pas avec une réalité clinique, c'est difficile à dire d'emblée, mais qui ne collait pas avec ce que disaient les gens et ce que disaient les gens dans leur langue. Alors, bon, il se trouve que, comme je vous le disais, je suis anthropologue, que je travaille avec des interprètes, mais que j'ai aussi appris le cambodgien, qu'en tout cas, ça me permet de le comprendre suffisamment avec l'interprète pour rentrer dans la langue et pour rentrer dans le type de narration qu'ont ces sujets. Et quand, comme ça, un patient vous dit, eh ben, finalement, on s'y habitue, c'est pas ça qui a été traumatisant, alors on se dit, il va falloir aller de l'avant pour essayer d'entendre ce qui est spécifiquement traumatisant pour un sujet. C'est-à-dire, ne pas partir avec le regard de celui qui ignore, non pas la réalité des événements, non pas l'horreur des événements, puisqu'il suffit de se documenter et on peut avoir une assez bonne idée de ce qui s'est passé, mais ce qui ignore ce qu'un sujet peut supporter ou ne pas supporter. Qu'est-ce qui va l'amener finalement? Et quand je dis ne pas supporter, c'est pas nécessairement supporter dans sa conscience, parce qu'effectivement, perdre ses parents, il ne le supporte pas. De là à dire que c'est traumatisant, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va faire effraction dans le psychisme et générer des symptômes, si je prends une définition là strictement psychanalytique, générer des symptômes dont il méconnaît l'origine, parce que c'est ça finalement, si on prend une définition claire de ce que pourrait être le traumatisme d'un point de vue psychanalytique, c'est forcément quelque chose qui génère des symptômes sans que le sujet lui-même le sache. Mais alors, faut-il pour autant méconnaître ce que disent les gens quand ils disent ça? C'est très dur, mais je l'ai supporté. J'ai vécu, j'ai survécu même. Et alors, ce moment de trouble que j'ai eu à l'occasion de cette narration et que j'ai retrouvé à maintes reprises avec d'autres patients, a été de se dire finalement, c'est vrai. J'ignore ce qui est traumatique pour un sujet, mais surtout, je me demande comment ça se fait que j'ai pu penser comme ça, que ce qui était traumatique était une donnée évidente de la rencontre avec un événement. C'était pour là. On pourrait dire que c'est presque la première fois que dans l'histoire de la psychiatrie, quelque chose vient se nouer comme ça, avec une telle facilité. Il y a un événement, il y a une symptomatologie. Et bien sûr, si on lit ceux qui ont écrit sur la névrose traumatique et sa transformation en état